Nous allons lire ce matin quelques versets dans un petit instant, des versets que nous allons mettre en lien avec ce que nous avons vu ces dimanches passés. Vous vous rappelez sans aucun doute les lectures de Jean 6, texte sur le pain de vie. Et je me permettrai de relire simplement les versets 67 à 71. Jésus dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous, les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas, Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Un peu plus loin, dans ce même évangile, au chapitre 13, nous avons la narration de la séance du lavement des pieds des disciples, et avec cette interrogation de la part des apôtres, qui est celui qui va livrer Jésus? Et ils s'interrogeaient sur cette personne quand Jésus va dire, c'est celui à qui je donne le morceau trempé. Le verset 26 le précise, et le verset 29 ajoute, « Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. » Suite alors, au travers des chapitres qui se succèdent, une longue série de paroles dites par Jésus dans l'intimité de ce petit groupe qui ne comprend maintenant plus que 11 apôtres. Les plus anciens parmi nous se souviennent de notre longue série d'études sur cet évangile à partir de ce moment-là. Car les versets qui suivent, jusqu'à ce que Jésus et les disciples s'en aillent au mont des Oliviers, ce sont des versets qui nous transmettent les paroles de Jésus parlant à cœur ouvert avec ses disciples, comme si le départ de Judas avait d'une certaine manière libéré la parole pour donner libre cours aux sentiments sans réserve que Jésus vivait, expérimenté, éprouvé pour ses 11 disciples. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons le chapitre 15 avec cette parole que nous connaissons bien sur le cep. Je vous invite donc à écouter ou à suivre, si vous le voulez, la lecture des versets 1 et suivant du chapitre 15 de Jean. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Je suis le vrai cep. Pour nous, cela résonne comme une image, comme une parabole. De même que Jésus dit « Je suis le bon berger » ou « Je suis la porte » pour les oreilles juives, c'était peut-être un peu différent. Car Jésus semble reprendre l'image connue en Israël, d'Israël, vigne du Seigneur. Ésaïe, au chapitre 5, parle de cela. Voici comment s'exprime le prophète en ces circonstances. « Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. » Il en remua le sol, ôta les pierres, il y mit un plan délicieux, il bâtit une tour au milieu d'elle, il y creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit des mauvais. Et plusieurs textes prophétiques reviennent à cette même image. Dans les psaumes, au chapitre 80, voici comment, encore une fois, s'exprime le psalmiste. Je vous lis quelques versets de ce psaume, les versets 9 à 13. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle. Elle a jeté des racines, rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre. Ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer, ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rompu ses clôtures en sorte que tous les passants la dépouillent? Impossible pour un Israélite de ne pas se souvenir de cela. Une vigne choisie, un plant délicieux de mauvais fruits. Une vigne abandonnée. Je suis la vraie vigne. Je suis le vrai cep. Comme Jésus avait dit quelques chapitres auparavant, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. La manne n'était pas ce pain. Je suis ce pain-là. Un plan excellent qui avait porté de mauvais fruits, maintenant, il n'en sera pas de même. Voici comment, encore une fois, le prophète Jérémie interpelle Israël, parlant de la vigne. « Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère ?» La réponse vient quelques versets plus loin. Elle vient de la bouche même d'Israël. « J'aime les dieux étrangers. Je veux aller après eux. » Et déjà, Dieu avait anticipé. Et quelques versets plus tôt alors, dans Jérémie 2, j'ai lu le verset 21, je vous ai lu le 25, voici les versets 9 et 13. « Mon peuple a changé sa gloire contre ceux qui n'aient d'aucun secours. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Voilà donc Israël qui s'est détourné de Dieu et avec encore cette remarque terrible qui s'applique souvent à tous les êtres humains. Comme tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes. Et d'ajouter, et dans le contexte du Nouveau Testament, c'est une accusation effrayante. C'est même au crime que tu les exerces. Comme tu es habile dans tes voies pour rechercher ce que tu aimes, c'est même au crime que tu les exerces. Car c'est bien ce qui se passe dans le Nouveau Testament. Et voici donc dans ce contexte Jésus qui affirme « Je suis le vrai cep. Mon Père est le vigneron. L'un et l'autre, ici, unis dans un même projet. Le premier exprime l'union organique qui fait de la vie du tronc celle des sarments. Comme la sève dans le sarment est celle qui vient du cep, ainsi la vie dans les disciples est celle qu'ils puisent dans la personne de Jésus. Le vigneron, quant à lui, a sélectionné son plan. Bien sûr, la première fois, c'était aussi une sélection humaine. À présent, il en a une autre. Son plan, il va l'entretenir, le cultiver, si j'ose dire, avec passion, de ses propres mains. Son intervention va se faire de façon régulière, comme se fait l'intervention de tout vigneron sur ses vignes, de deux manières. C'est une même action, mais aux effets qui sont différents. Dans un cas, il supprime tout rameau, impropre à porter du fruit. Il enlève, dit le texte. De l'autre, il émonde. L'émondage. J'ai regardé, bien sûr, le Larousse qui m'a répondu de façon digne d'une lapalissade. Émondage, action démondée. Vous n'attendiez pas autre chose, je pense. Quand même, il y a un peu plus. Émondée. Qu'est-ce que cela signifie? Vous le savez. Vous le savez quant au geste. Vous le savez sur quoi cela intervient. Mais le savez-vous dans son sens profond, dans son sens initial? À la lecture du Nouveau Testament, peut-être certaines traductions vous ont-elles aidé, vous aideraient-elles? Mais je ne sais pas si vous avez été surpris par le texte que nous avons lu. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Rien de surprenant ici. Mais que pensez-vous du verset 3? Je n'ose trop laisser le silence parce que ceux qui vont écouter la cassette vont penser qu'il y a une panne. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Le mot émondé et le mot pur sont des mots qui sont semblables dans le Nouveau Testament en grec. Nous pourrions traduire, déjà vous êtes purifiés parce que celui, le Père, purifie le sarment qui porte du fruit. Ou nous pourrions dire, il émonde le sarment qui porte du fruit, déjà vous êtes émondés. Le mot a dans son sens initial, le mot latin, c'est nettoyer. Nettoyer. Et l'action de celui qui émonde et vient de procéder au nettoyage de la vigne pour enlever tout ce qui est superflu, tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, va empêcher la fructification et une fructification abondante. Peut-être, et même certainement, il enlève des choses qui sont naturelles, qui ne sont pas mauvaises en soi. Un bout de sarment n'est rien d'autre que la manifestation d'une bonne végétation de la vigne. Mais comme dans la circonstance, il devient inutile et même parfois un obstacle à la fructification, puis à la maturation des grappes, le vigneron le coupe. Tout ce que le vigneron coupe n'est pas forcément mauvais en soi, mais devient mauvais par la gêne qu'il exerce sur la suite. Ça peut peut-être nous aider à comprendre qu'il y a parfois des choses tout à fait légitimes que le Seigneur nous demande de laisser de côté, que le Seigneur souhaite enlever, des choses dont il veut nous purifier, qui ne sont pas forcément souillures en soi, mais qui seront obstacles par la suite. Ainsi donc, l'action du vigneron va être de tendre à une meilleure fructification et de rendre le sarment capable de porter en abondance le fruit pour lequel il a été fait. Quel exemple que celui-là! Le texte ne manque pas d'intérêt. Et nous voyons que dans la pratique, il accomplit, ce vigneron accomplit vraiment les deux actions. D'un côté, il enlève ce qui ne portera pas de fruits. Et de l'autre côté, il purifie ce qui peut gêner pour porter du fruit. Tout sarment qui ne porte pas de fruits, tout sarment dont il sait qu'il n'y aura pas de suite, il enlève. Et les autres, il les nettoie. Ainsi, au verset 3, il précise, déjà vous êtes nettoyés, à ses disciples, pour prendre le bon mot, ou déjà vous êtes purifiés, car le mot qui est utilisé signifie pur, purification, ou purifié. Déjà vous êtes purifiés, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai donnée. Est-ce que cela ne vous fait pas penser, encore une fois, à la scène du lavage des pieds? Lorsque Jésus s'apprête à laver les pieds des disciples et que Pierre s'y refuse. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas part. Oh Seigneur, alors vas-y, vas-y. Et pas seulement les pieds, tout le reste. Non, vous êtes purs. Il vous suffit maintenant de faire des ablutions. Vous êtes purs, mais pas tous, précise Jésus. Mais pas tous. La suite confirmera la chose. Cette parole que je vous ai dite, dans le langage tout à fait simple du parler naturel, ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas une proclamation, c'est simplement le résultat de la conversation. Les choses que je vous ai dites, que vous avez entendu, que vous avez reçu, que vous avez cru, ces choses-là vous ont purifié. Déjà, vous êtes purs. Souvenez-vous de Jean 1, concernant le Verbe, ou la parole, véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ce verbe-là, qui précise qu'il a été rejeté, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cette capacité de devenir enfant de Dieu est mise en œuvre par la parole elle-même, agissant dans le cœur de ceux qui la reçoivent. Vous avez reçu, entendu, reçu, cru. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie et nous avons connu et nous avons cru que tu es le Saint de Dieu. Déjà, vous êtes purs. Et le Seigneur insiste sur la suite, sur la relation qu'il a avec son disciple ou ses disciples et sur la relation que les disciples ont envers lui ou avec lui. Et cela grâce au verbe demeurer. Vous l'avez remarqué, il vient fréquemment. Il vient même plus fréquemment en français qu'il n'est en grec. Puisqu'à deux reprises, le français ajoute le verbe demeurer pour la compréhension de la phrase, alors qu'il n'y est pas dans le texte grec. Mais entre les versets 4 et 10, en grec, il y est 10 fois, plus une 11e fois, plus loin au verset 16. Demeurer. Tout le monde sait ce que c'est que demeurer. J'ai quand même regardé. C'est être, je vous le dis dans l'ordre que le donne le dictionnaire, c'est être fixe. Je parle du terme grec. Hein. C'est être fixe. C'est être stable. C'est être sédentaire. Et en deuxième ressort, c'est rester de pied ferme, tenir bon. Demeurer en Christ, si j'ose dire, c'est tout cela. C'est tout cela que de voir cet attachement, cette fermeté dans la résolution. Cette manifestation de stabilité dans la fixation, dans la sédentarité des disciples, Seigneur, mais où allons-nous aller? Nous avons tout trouvé en toi. À qui irions-nous? Il n'y a aucun recours possible. Tu es le seul. Et Jésus confirme cette manifestation de la foi des disciples, qui est la foi qui sauve, la seule foi qui sauve. Nous avons vu, les dimanches passés, que certaines expressions de foi s'étaient faites, mais qui avaient été suivies par des abandons, par des retraits, jusqu'à des velléités de meurtre. Ici, il s'agit de la foi qui sauve. Quelle est-elle? Elle est celle qui demeure en Christ. Elle est celle qui garde ses paroles. La foi qui sauve demeure dans celui qui est l'objet de sa foi. C'est la condition sine qua non. Ne pas y répondre, c'est être comme le sarment qu'on enlève et qu'on jette au feu. C'est donner l'impression d'une adhésion, qu'il n'y ait rien d'autre qu'une simulation, dont on est soi-même la première victime. Et beaucoup jouent à ce jeu. Hélas. Ne pas entendre ou faire semblant d'entendre, faire semblant de recevoir, mais ne pas croire, c'est se plonger soi-même dans l'impossibilité de garder la parole de Jésus et de demeurer en lui. Malgré un attachement momentané, superficiel au cep, il révèle, cette attitude révèle l'inaptitude à la fructification, d'où la condamnation, d'où le rejet. Ainsi en a-t-il été de la foule, dans un choix dramatique, celui de se séparer de Jésus, de se retirer. Ainsi en a-t-il été d'un des apôtres qui entendit lui-même de la bouche de Jésus, « C'est moi qui vous ai choisi, vous les douze, et pourtant au milieu de vous, il y a un démon !» Judas l'a entendu. Il n'en a quand même pas moins trahi Jésus pour quelques pièces d'argent, puis fait connaître par un baiser, comme la même foule qui s'était retirée le honnira par ses vociférations. On peut donner le change un temps, mais seulement un temps. Il n'y a aucune méprise possible dans l'exemple cité. Le sarment coupé du cep ne peut rien par lui-même. Il en va ainsi de tout pseudo-disciple de Jésus-Christ. Veuillez excuser le pseudo, mais il n'est pas de trop. D'où l'insistance du Seigneur, dans ce passage que nous avons lu, cette insistance qui va plus loin encore que de dire, que d'énoncer la dépendance du sarment envers le cep. Vous allez me dire, mais qu'y a-t-il de plus? Vous n'avez pas été sans remarquer, peut-être sans trop le relever, ceci. Demeurez en moi. Moi en vous. C'est là qu'un des versets, qu'un des demeurés est ajouté en français. Pareil au verset 5. Celui qui demeure en moi, et moi en lui. Verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en lui, en vous, que notez-vous ici? Qu'il y a un élan dans deux sens. Le disciple demeure en Jésus-Christ et Jésus-Christ demeure dans le disciple. Il y a ce que, si j'ose dire, une interconnexion, une interpénétration. Dieu a voulu qu'il y ait une interdépendance entre le sarment et le cep. La vie du cep est la vie qui va inonder le sarment. Et ce sarment, recevant la vie du cep, va produire le fruit que le cep attend, mais que le sarment porte. La chose vient du cep, et cependant c'est le sarment qui la porte. Dieu a voulu que nous soyons ainsi associés à l'œuvre de Jésus-Christ, au point que le fruit dépend du sarment, qui est porteur, bien que ce soit la vie du cep qui le génère. Quelle belle vocation que celle-là. Dieu a voulu qu'il y ait cette interpénétration entre le disciple de Jésus et Jésus lui-même, le disciple en Jésus et Jésus dans le disciple. Réalité indissociable. Car couper le sarment fructifère, il ne portera plus de fruits. Et le cep non plus. C'est ensemble qu'ils vont pouvoir accomplir l'œuvre prévue par le Seigneur. Les soins apportés par le vigneron à ce cep et au sarment qui sont issus de lui montrent toute l'attention que Dieu lui porte et son désir d'une fructification abondante. Et c'est cette fructification qui est non seulement souhaitée, mais qui est attendue par le vigneron. Le vigneron ne travaille pas pour pouvoir peut-être un jour avoir une récolte. Il va s'appliquer pour pouvoir vendanger. C'est voulu, c'est attendu, sauf désastre, comme il s'en est produit dans nos vignes ici en Bourgogne ou ailleurs. Mais dans la vigne du Seigneur, même les tempêtes les plus violentes ne viennent pas à bout des fruits portés par les sarments rattachés au cep. Au contraire, l'histoire montre que plus il y a eu de contrariété, d'opposition, d'adversité, plus le fruit a été abondant. C'est donc cette fructification, laisse apparaître le texte, qui, d'une part, glorifie Dieu, le Père de Jésus-Christ, et d'autre part, révèle l'intimité qui existe entre le disciple et son Seigneur, entre le sarment et le cep. Double vocation de ce fruit, la gloire de Dieu et la manifestation de ce courant de vie qui passe entre Jésus et celui qui le sert. Il y a là, dans ce verset auquel je fais allusion, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » C'est que vous portiez du fruit abondant et que vous deveniez pour moi des disciples. Comme si cette action ponctuelle à un moment donné est appelée à se renouveler. Non pas au cycle des saisons, car dans la vie spirituelle, la fructification peut se faire en toute saison. Mais comme si cette fructification, sans cesse recherchée, venait sans cesse prouver que l'on est disciple de Jésus-Christ. Et je pense que cela s'inscrit dans la réalité voulue par Dieu. Ce qui est acquis l'est par la grâce de Dieu. Tout à l'heure, je faisais allusion au fait qu'il nous a sauvés, justifiés, qu'il nous a sanctifiés, glorifiés. Mais c'est un devenir pour nous. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, vous êtes saints. Et de rajouter, sanctifiez-vous. Déjà vous êtes à part, mais continuez à être à part, à manifester justement que vous appartenez à Dieu. Il ne s'agit pas de remettre en question ce qui est acquis. Il est au contraire question ici de confirmer ce qui est acquis par la qualité de la vie, par les fruits que l'on porte. C'est une confirmation et une confirmation qui sert à la gloire de Dieu. Quel boulot! Pardon pour un terme un peu inhabituel. Mais enfin, je ne tremble pas en le disant, comme le feraient parfois certains Corses. Quel labeur! S'il faut sans cesse être troublé par cette question-là, où est la paix de la vie chrétienne? Je voudrais attirer l'attention, avant de terminer, sur les versets 9, 10 et 11. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Belle comparaison, apaisante comparaison, que celle qui fait apparaître ici que Jésus compare sa relation avec nous à la relation avec son Père. Comme le Père m'a aimé, je vous aime. Alors il va s'agir pour vous de faire quoi? Il va s'agir pour vous de demeurer, de vous fixer, de vous installer dans cet amour. Il ne s'agit pas là de quelque chose de laborieux, de quelque chose de pénible, de quelque chose de difficile, de quelque chose de troublant. C'est au contraire une réalité dans laquelle vous devez vous plonger. Vous êtes aimé. Aimé du Seigneur Jésus-Christ au même titre qu'il était aimé de son Père. Relation douce et bienfaisante que celle-là, qui fait fi de toutes les craintes, qui est à l'origine, au contraire, de toutes les assurances, de toutes les garanties. Il s'agit d'un état, il s'agit d'une condition offerte qu'il faut conserver. C'est un don. Nous n'avons pas à l'acquérir si parfois, dans notre avance vers Dieu, notre conversion a été accompagnée de beaucoup de larmes, de beaucoup de souffrances, de beaucoup de luttes, et fort heureusement de délivrance, ici, il ne s'agit plus de lutte, il s'agit de demeurer dans cet amour, de conserver cette réalité que personne ne saurait nous enlever. Et alors, c'est la suite qui va prouver que nous demeurons dans cet amour. C'est le plaisir éprouvé par le Seigneur Jésus-Christ de s'attacher à la vocation que Dieu lui a donnée, de s'y appliquer, de garder le cap envers et contre tout. Relisez ce qui va parler de sa relation au Père. Je fais ce que le Père m'a dit de faire. Je dis ce que le Père m'a dit de dire. Je n'ai pas d'autre vocation que de faire cela. Je n'ai pas d'autre nourriture que de faire la volonté de mon Père. Ce n'était pas dur. C'était un plaisir, comme deviendra plaisir pour nous de garder cette parole, parole de vie éternelle, parole qui satisfait, parole qui comble, parole qui apaise, parole qui est telle que quand on y a goûté, on n'a plus jamais faim, plus jamais soif. Alors aimé par Jésus, aimé de Jésus, trouve comme manifestation garder sa parole. trouver du plaisir à faire ce qu'il veut, ce qu'il aime? Y a-t-il plus belle vocation pour un être humain que d'entrer ainsi de plein pied dans le projet de Dieu? Certainement pas. Et les apôtres nous l'ont bien prouvé. Quelle belle vocation que de pouvoir reproduire avec Jésus, dans notre relation avec lui, ce que Jésus a accompli avec son Père. Ainsi, dans la paix d'un amour jouissif, d'un amour qui comble, nous pouvons entendre Jésus nous dire « Je ne vous ai pas dit toutes ces choses pour vous troubler, je vous les ai au contraire dites, afin que ma joie soit en vous et votre joie soit parfaite. » La joie de Jésus dans la communion de son Père devient notre joie dans notre communion avec lui. Et cette joie ne peut qu'être parfaite. Dieu veuille que nous la désirions de tout notre être. Amen.